M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût cette semaine ? Une histoire de passion pour la politique, pour ce qui nous relie et nous permet d'être ensemble. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Karim Rissouli, homme de télévision, journaliste et présentateur sur France Télévisions. Il anime C'est ce soir, aux côtés de Camille Diaou et Laure Adler. On le retrouve également dans En société et plus ponctuellement dans En terre opposée ou La fabrique du mensonge. Des émissions qui ont en commun un goût, celui d'expliquer le monde, certes, mais toujours dans la nuance, en cherchant à prendre le contre-pied de la culture du clash et de la polarisation. Pour en parler, ainsi que de son goût et de son parcours, Karim nous a donné rendez-vous chez lui, dans le bas du 9e arrondissement de Paris, un quartier paisible, on croise quelques lycéens, on pose entre deux cours, on prend à droite, on y est. Oui, c'est pour M Le Monde. Ok.
Salut.
Vous allez bien ?
Ça va ?
Ouais.
Karim, enchanté. Salut.
Géraldine.
Salut, bienvenue.
Merci.
Bah, avec plaisir.
Moi aussi, avec plaisir. Alors, Karim, on est chez vous ?
On est chez moi.
C'est un espace qui vous ressemble ici ?
En partie, ouais, mais on va en parler.
Alors, comment vous le décririez juste ?
Très bourgeois.
Ah ouais ?
Et c'est ça qui.
Et ça vous ressemble ?
Bah, justement. Il faut que je l'accepte. Mais il faut que je travaille en analyse.
Ok.
Non, c'est à la fois très bourgeois et très chaleureux, j'espère.
D'accord, donc on est en plein dans le sujet, quoi, direct.
Ouais, dans le sujet. Okay. On est dans le transclasse, tout ça, on est bien.
On s'est avancé dans l'appartement haussmannien, donc, avec ses moulures, son parquet. On a pris à droite, dans la salle à manger, adjacente au salon. Une pièce qui comporte également la bibliothèque féministe de la maison, sur la cheminée des bibelots marocains. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Le goût de mon enfance, je dirais épicé, mélangé, parce que c'était très franco-marocain en réalité.
Ouais.
Ma mère est française et mon père est marocain. Et j'ai baigné un peu dans cet environnement multiculturel, disons. Avec une France particulière, c'est-à-dire que j'étais dans une France périurbaine. C'était près d'Angers, c'était ce qu'on appelle des villages dortoirs un peu. La majorité des gens travaillaient à Angers. Et c'était des pavillons qui se ressemblent tous. Alors chez nous, il y avait quand même un palmier pour marquer notre différence et un olivier. Mais sinon, c'était les mêmes pavillons. Et donc c'était cette France-là, avec une touche de Maroc à l'intérieur.
Justement, là où vous avez grandi, donc dans ces villes dortoirs, vous disiez,
ouais.
Enfin, c'est quoi, c'est une petite ville, c'est quoi,
c'est aujourd'hui, ça doit être considéré comme une petite ville. C'était historiquement un village
rural, c'est ça, Brun-sur-Lothion. Ouais, un village, d'accord.
Lothion, okay. C'est une toute petite rivière qui coule à 10 km d'Angers, en gros, qui est pas la banlieue d'Angers et qui est pas non plus un village en pleine campagne. Et qui a grossi au début des années 80 avec l'arrivée de plein d'urbains qui n'avaient pas les moyens de se loger en ville, dont mes parents,
ouais.
Qui ont déménagé l'année de ma naissance, en 1981.
Oui, vous êtes né l'année de l'élection de Mitterrand.
Ouais, mes parents étaient plutôt engagés à gauche et je devais être dans le ventre de ma mère le 10 mai, quelque part dans une rue d'Angers. Et je suis né le 5 août 81.
Ce pavillon, à l'intérieur, ça ressemblait à quoi chez vous ?
Quand j'étais petit, 13 années 80. Avec des papiers peints assez flashy.
Ouais.
Ça, il y a eu à un moment donné des travaux, et là, le Maroc est entré un peu dans la maison. Et donc là, ils ont construit un salon marocain, un vrai salon marocain, avec où on pouvait s'allonger, tapis, où tous les invités adoraient être, ils préfèrent être là que dans le salon français, entre guillemets.
Ouais, donc ça s'incarnait dans la maison.
Ouais, ça s'incarnait dans la maison.
Ouais, ouais.
Mais à tous les niveaux, au niveau de la musique, au niveau des tableaux, des objets. C'est vraiment une culture mélangée. Je suis davantage français que marocain parce que je suis né ici et que
vous
ma culture
avez
est plus
ici.
Française, mais
ouais.
Elle est vraiment teintée de Maroc.
Ouais, donc votre père, lui, il était arrivé en France à l'âge de 20 ans, c'est ça,
ouais,
du Maroc?
En 70.
Pour travailler, en fait
C'est une histoire assez classique de l'immigration ouais. marocaine ou maghrébine, d'ailleurs. C'était l'aîné d'une famille de 11 enfants, qui avait arrêté l'école à 11 ans, qui travaillait depuis l'âge de 15 ans, qui vendait des fruits et légumes avec son père.
Ouais.
Et qui, à 20 ans, a eu un contrat quand les entreprises françaises venaient chercher la main-d'œuvre au Maghreb. Et qui est arrivé à Angers. Ça aurait pu être dans n'importe quelle autre ville de France. Moi, je serais pas là, mais. Où il a rencontré ma mère 3 ans plus tard. Ensuite, il a fait plein de petits boulots de travailleurs immigrés en arrivant. Et puis, la rencontre avec ma mère a été décisive pour lui, je pense. Elle l'a rencontré au foyer des jeunes travailleurs d'Angers.
Ouais, elle était assistante sociale, votre mère.
Ouais, elle était élève assistante sociale quand elle l'a rencontré. Et elle était amoureuse d'un de ses copains. Elle venait voir son copain qui s'appelait Driss, mais elle parlait avec mon père. Donc finalement, elle s'est dit, bon, peut-être qu'il y a un sujet. Et elle a fini par se mettre en couple avec mon père. Bon, en tout cas, pour revenir à lui, il a ensuite beaucoup travaillé dans le social, comme ma mère. Donc lui, plus avec les handicapés mentaux. Toute mon enfance, quand j'allais voir mon père au travail, c'était dans des foyers pour handicapés mentaux. Et puis après, il a travaillé avec des chômeurs de longue durée en réinsertion, puis de nouveau avec des handicapés mentaux, enfin voilà. Éducateur spécialisé, et puis ma sœur est éducatrice spécialisée de formation. Enfin, je suis le seul à avoir
échappé au social. Vous avez une famille qui travaille beaucoup dans le social. Ouais, ouais. Et du coup, votre père, si vous pensez à lui, justement, ou de ce que vous en perceviez, c'était quoi ses goûts? Qu'est-ce qu'il aimait dans la vie? Qu'est-ce qui était important pour lui?
J'ai le sentiment que petit, pour lui, c'était quand même le travail qui était important. La culture était présente. Il a toujours lu des livres, il écoutait de la musique dans la voiture, mais...
Il écoutait quoi?
Des groupes marocains. Il y a un groupe qui s'appelle Nassel Riwan, que je remets de temps en temps, je trouve, sur Spotify ou Deezer, qu'il adorait, qu'il avait fait venir à Angers, d'ailleurs, pour un concert dans les années 70. Donc ça, je me souviens de ça, mais c'est comme si la culture était là par effraction. Parce que l'essentiel, c'était de s'insérer dans cette société. Mon père a fait une équivalence bac, par exemple, à la fin des années 80. Donc il était déjà là depuis 20 ans. Moi, j'avais une dizaine d'années.
Ouais.
Et c'était ça, l'important, c'était de travailler pour avoir cette équivalence bac. Puis après, il a fait une maîtrise de sciences sociales. C'est une belle histoire, d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est comme si la culture était là où elle pouvait se glisser, quoi.
Il avait des passions, je sais pas, le foot.
Le foot.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais.
Qui m'a transmise, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est ça, ouais. Je sais que vous étiez très passionné.
Le foot, je pense que ça vient de lui. Lui, il jouait beaucoup. Il a joué jusqu'à l'âge de 60 ou 65 ans en club. Non, le foot était une grande passion. La sociologie, je pense. Il a beaucoup de livres de sociaux à la maison. Mais je me pose souvent la question de ce qu'il serait devenu s'il était né en France, comme moi, dans un milieu plus favorisé, ou en tout cas plus lettré. Mes grands-parents marocains étaient analphabètes, c'était pas du tout le... On parle beaucoup de transclasse. J'ai un peu ça en moi, mais lui, c'est le vrai transclasse, pour le coup. Ma mère aussi, d'ailleurs.
Votre mère, elle est devenue assistante sociale, c'est ça?
Ouais, ma mère, elle est dans une famille... alors, pour le coup, elle, dans un milieu très, très rural, une partie du Maine-et-Loire qui s'appelle les Mauges, qui est entre le Maine-et-Loire et la Vendée, donc très catholique. Et avec des grands-parents, ma grand-mère travaillait pas, mon grand-père était maçon. 4 enfants, elle c'était la dernière. Et voilà, et elle a fait l'école d'assistante sociale à Angers, donc elle a quitté les Mauges natales. Et puis voilà, donc ce sont deux milieux populaires en réalité. Mais les deux sont des transclasses en réalité, et un peu des immigrés, parce que c'était de la campagne vers la ville, c'était une forme de migration aussi.
Et votre mère, qu'est-ce qui l'intéressait à elle dans la vie? Les autres?
Je voulais dire une phrase, j'allais dire ça, les autres. Mais encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est une femme qui aujourd'hui va encore porter des repas à des personnes âgées qui sont isolées dans la campagne, qui peut faire des groupes de discussion avec des migrants, qui est engagée dans une association... pour aider les enfants palestiniens. Bon, ça c'est aujourd'hui, mais j'ai été élevé là-dedans. Enfin, c'était ça le...
Il y avait une grande conscience sociale.
Enfin, très grande.
Ouais.
Très grande. Et quand j'étais petit, elle était engagée dans une association qui s'appelait Opération Village Roumain. C'était à la fin de Ceausescu en Roumanie.
Oui, oui.
Et qui construisait des dispensaires ou qui amenait des médicaments dans les dispensaires, etc., qui aidait les écoles. Et moi, à l'âge de 9 ans, elle m'embarquait dans ses périples en camion, Paris-Bucarest.
Ah oui?
Ouais. La première fois, c'était en 90 ou 91.
Donc juste après la chute.
Ouais, juste après la chute.
Oui.
De Ceausescu. Et donc elle, oui, les autres, au sens large, je dirais. Et la chanson française, beaucoup. Ferré, Brassens, Brel, Barbara.
Vous disiez la culture, donc elle était là. Elle passait par quoi? Le cinéma, la télé? La télé, c'est important?
Pas tant que ça.
Non.
La télé n'était pas tout le temps allumée. Le dimanche soir, comme dans beaucoup de foyers, on avait le droit de manger devant la télé.
Ouais.
Donc c'était époque 7/7, Anne
Sinclair, exactement.
Voilà. Ce qui du coup après quand j'ai repris une émission qui s'appelle C'est politique, qui était à la place, à la même heure que 7/7, c'était assez émouvant un peu.
Ouais, ouais.
Non, c'était présent mais pas trop. C'était beaucoup présent pour le sport.
Match de foot.
Ouais. Ouais, match de foot.
Vous avez des grands souvenirs comme ça de...
Ah, c'est mon premier souvenir de vie, c'est un match de foot.
C'est quoi? Lequel?
C'est la Coupe du Monde 86 au Mexique.
Ouais.
France-Brésil. Michel Platini, et c'était le quart de finale de cette Coupe du Monde 86, et je me revois, et il n'y a pas de photo, donc c'est un vrai souvenir non reconstitué, sur les genoux de mon père, dans un canapé gris chiné, qui était assez joli, qui aujourd'hui serait pas mal à la mode, je pense, et c'est mon premier souvenir de vie, et j'avais 5 ans à peine. Et le cinéma, un peu, pour le coup, mais un peu plus âgé, mais... Enfin, plus âgé, non, à l'adolescence, ma mère m'emmenait beaucoup, ou pré-adolescence, voir des films d'arrêt-essai, quand même. Il y avait un cinéma d'arrêt-essai à Angers, qui est toujours là, qui s'appelle Les 400 coups. Et je la remercie, d'ailleurs, aujourd'hui. Elle m'emmenait beaucoup voir des films... alors, c'était beaucoup du Ken Loach, ou ce genre
social,
de...
Social, cinéma social.
Bah, ouais, toujours. Ouais. De toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose de social, de
toujours,
politique, de grave.
Toujours, dans les goûts, dans... Ah oui ouais.
En tout cas, il faut que ça ait du sens.
Et du coup, vous disiez, vous parliez au début de la double culture qui était présente donc dans architecturalement dans la maison, quoi, dans la répartition de la maison, j'imagine dans la nourriture, dans la musique. Enfin, ça passe par toutes ces choses-là. Comment vous étiez perçu à Angers au début des années 80?
À Brun, on était la seule famille d'origine immigrée. Donc ça, j'en avais conscience. J'étais très heureux pour le coup et je le vivais très bien. Il y a eu des épisodes de racisme ordinaire, disons. C'est-à-dire, je me rappelle très bien du premier sale arabe que j'ai entendu. Moi, je devais avoir 7-8 ans. Mais bon, c'est une engueulade entre deux enfants. Et lui devait dire ce qu'il a répété, ce que ses parents disaient chez lui. Mais globalement, j'ai eu une enfance très heureuse dans cet environnement-là. Mais c'est marrant, j'ai quand même 42 ans aujourd'hui et je me rappelle très bien de ce souvenir. Donc le racisme,
c'est marquant. C'est bien marquant, sûr, bien sûr. Ouais.
Et puis après, à l'adolescence, mais là, j'étais déjà scolarisé à Angers, du coup.
Ouais.
J'ai eu un gros moment de crise identitaire, disons. Enfin, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis français, arabe, les deux? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Voilà, cette petite voix intérieure qui t'empoisonne un peu et qui fait que j'ai vu un psy pendant plusieurs années qui m'a pas mal aidé, je pense.
À l'adolescence?
Ouais, à l'adolescence, parce que c'était... Il y avait cette histoire de double identité, et aussi, il y a eu un épisode un peu traumatique dans mon enfance, avec un de mes oncles...
À l'été 89.
Marocain, ouais. À l'été 89, où mes parents nous avaient envoyé, ma sœur et moi...
Vous y alliez souvent?
On y allait tous les étés, et puis après, on était sur deux au Maroc, dans la maison familiale, qui était la maison de mes grands-parents, que mon père payait d'ailleurs, le loyer parce que c'était le fils aîné qui était parti pour ça, qui envoyait de l'argent tous les mois pendant 40 ans. Mais au mois de juillet, mes parents travaillaient, ils nous rejoignaient au mois d'août. Ils nous avaient envoyé en avion, c'était mon premier voyage en avion, je crois, Bordeaux-Casa. Et alors, j'étais un petit garçon qui avait du mal à quitter ses parents, donc bon, j'étais angoissé. Et sur cette angoisse est venu se greffer le deuxième fils de la famille, en fait, le frère de mon père, qui, entre l'été précédent et celui-ci, était devenu un islamiste radical, marqué par la montée du GIA en Algérie. Enfin, là, je pense, l'un des premiers salafistes de la ville, qui s'appelle Beni Mellal au Maroc. Et il m'a chopé, quoi, pendant tout le mois de juillet, me disant que...
Vous avez 8-9 ans, c'est ça?
J'ai 8 ans.
Ouais.
J'ai 8 ans cet été-là. Et quand je jouais aux cartes avec mes cousines, me disant que c'était pas bien, m'amenant dans sa chambre pour me raconter à quel point mon père était un mécréant, brûlerait dans les flammes de l'enfer. Et donc, il était au début de sa radicalisation, lui. Et moi, ça m'a marqué énormément. Quand mes parents sont arrivés début août, ils ont vu que ça allait pas. J'ai raconté assez vite ce qui s'était passé. Et mon père l'a dégagé de la maison. Et
Vous avez pu en parler, ça c'est
J'en ai parlé, ça a été le début d'un schisme familial pour le coup.
Ça a été très important pour vous, enfin j'imagine au-delà du traumatisme, je veux dire dans votre construction, dans votre conception ensuite plus tard de la radicalisation, de...
C'est important parce que au-delà de cet oncle-là, j'ai quand même une bonne connaissance de ce que c'est que la religion, l'islam, les 50 nuances d'islam, 50 nuances de voile que j'ai vues dans ma famille. Donc oui, ça me sert dans ma compréhension de ces phénomènes-là. Ça fait aussi que les attaques, quand il y a des attaques contre moi par certains groupes qui sont d'extrême droite ou des groupes laïcs qui voient des islamistes partout, c'est encore plus violent pour moi à recevoir. C'est-à-dire quand il m'est arrivé d'être attaqué sur ce terrain-là et je sens qu'il y a un truc qui s'ouvre tout de suite, qui n'est pas encore cautérisé. Mais je travaille dessus encore.
Où est-ce qu'on est, Karine, là ?
Là, on est dans le salon.
Ça ressemble à quoi ?
Il y a une cheminée, un peu de plantes devant et du parquet en pointe de Hongrie. Ça, c'est une petite banquette avec des tissus un peu... Ça pourrait être indien, le premier, je sais pas.
Ouais.
Pas mal de coussins marocains, puis touches marocaines un peu. Là, on est sur un salon plutôt années 70, mais sur un tapis marocain, quand même. Un tapis que mon amoureuse déteste, mais j'avais droit à une touche, quand même, marocaine.
Oui, c'est important pour vous de la garder. Et ça, c'est quoi, là ? C'est les disques, c'est le coin de disque.
Ça, c'est 33 tours, ça.
Ah, Férouz ?
Férouz, ouais. Chanteuse libanaise. Enfin, pas chanteuse. Icône libanaise.
Ouais.
Qui a été hyper importante aussi dans mon enfance.
C'est vrai ?
Mes parents avaient plein d'amis libanais. Et on écoutait beaucoup Férouz à la maison. Et ça, c'est des disques que j'ai ramenés de chez mes parents. Il y a Férouz. Ça raconte très bien mon enfance, ça.
Je me souviens de ça, c'est compile là. Ouais. Oh là là.
Ouais. Ça c'est
Éthiopie,
chanteur sans frontières.
Et We Are The World.
Et We Are The World. Ouais. USA for Africa.
Et alors, ça, vous l'avez beaucoup écouté.
Ça, je les ai écoutés tout le temps. Je les connais par cœur, ces chansons. Ça, je les mettais tout le temps. Vraiment. Si je mets ça j'ai un... Ouais. Il se passe un truc dans mon ventre.
Si vous pensez à vous, Karim Rissouli, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous en premier ?
La politique, très tôt. Le football, le rapport aux filles, c'est-à-dire que le sentiment amoureux, l'attirance, quoi.
Ouais.
J'étais un amoureux transi un peu tout le temps, quoi. J'aimais avoir mal, j'aimais écouter des musiques tristes.
Vous aimiez aimer,
J'aimais aimer, si j'avais un chagrin d'amour, mettre... je sais pas moi, du Cabrel pour pleurer ou... Vous voyez quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, parce que c'est encore très important pour moi aujourd'hui, la politique, le foot...
Et l'amour. Enfin, la vie sentimentale.
Ouais, l'amour. Ouais. Mais qu'en fait, je suis encore... Enfin, le petit garçon que j'étais et l'homme que je suis devenu sont pas si éloignés que ça en réalité. Le rapport à la politique, aux relations internationales. Enfin, je devais être chiant comme garçon. Dans les dîners où il y avait beaucoup d'adultes, parfois j'étais le seul enfant et je voulais absolument participer au débat, donner mon avis.
Ça vous intéressait ?
Ça m'intéressait énormément.
Vous aviez un poster de Martin Luther King ?
J'avais un poster de Martin Luther King. Ma chambre était pas mal. Enfin, c'était une chambre de pavillon, encore une fois, de zone périurbaine. Qui avait vu sur d'autres pavillons avec derrière des champs qui aujourd'hui deviennent d'autres maisons. Ce qui est marrant, c'est que je m'imaginais, j'étais souvent à ma fenêtre, enfin, j'étais souvent dehors en train de jouer au foot, mais j'étais souvent à ma fenêtre et je m'imaginais voir des gratte-ciels. Je rêvais de la ville, de la grande ville.
C'est vrai?
Ouais.
La grande ville, c'était déjà Paris ou c'était New York?
Ça pouvait être New York, Montréal, parce que ma sœur avait une correspondante québécoise et donc j'étais tombé dingue de Montréal. Du coup, je regardais les Grands Prix de Formule 1 pour voir les gratte-ciels.
Ouais.
Mais vraiment, je rêvais de ça. Mais donc, j'étais dans cette chambre-là et il y avait un poster de Martin Luther King sur la porte, alors, qui était un peu abîmé parce que... Alors, moi, je suis pas croyant, mais... Je faisais quand même des prières laïques comme ça le soir en disant j'espère que mes parents vont aller bien. Et je faisais un bisou sur la joue de Martin Luther King tout le temps.
Ah, c'était Martin Luther King, le dieu, quoi.
C'était mon dieu, quoi.
Enfin, la divinité invoquée.
Ouais.
Ok.
Bon, voilà. J'ai dû avoir un poster de Che Guevara. Et puis, j'avais en même temps des posters des héros de Sauvé par le Gong, qui était une série qui était sur Antenne 2 à l'époque.
Je me souviens très bien.
Que j'adorais. Une actrice qui s'appelle Tiffany Amber-Thiessen, qui est brune aux cheveux longs, peut-être qui a marqué mon goût aussi.
Puis il y avait Zach, non ? Le blond,
il y avait Zach
là.
Maurice, bien sûr. Marc-Paul Gosselaar.
Ouais, exactement.
Et lui, j'avais un poster grandeur nature, donc 1m78 sur ma porte. Donc voilà, Martin Luther King côtoyait Zach Maurice.
et beaucoup de football. Donc, vous avez joué, vous avez même fait un peu de sport-études.
Enfin, j'ai fait sport-études jusqu'à la fin de la troisième. Je voulais être journaliste ou footballeur. Et je me suis rendu compte à l'âge de 14-15 ans que j'étais bon, mais pas exceptionnel.
Pas assez pour être pro.
Non. Ouais. Et j'avais aussi envie d'aller dans un circuit cursus
normal, entre guillemets, ouais. Classique, quoi, en tout cas.
Classique, où j'aurais du temps pour voir mes potes, pour voir des filles.
Oui, c'est ça, parce que footballeur pro, c'est tout de suite une vie très particulière, en fait.
Ouais, je pense que j'avais besoin aussi de nourriture. Plus intellectuel.
Oui, c'est ça, vous étiez attiré.
Et je ne méprise aucunement les footballeurs.
Mais c'est vrai que c'est des parcours différents.
Ouais, ouais.
En 96, vous avez 15 ans et Mitterrand meurt.
Je suis en troisième, je pense. Je termine ma troisième.
Ouais. C'est quelque chose qui vous marque profondément.
Ouais. On est en janvier 96. Ouais. Donc il a quitté le pouvoir au mois de mai précédent. Et j'étais en sport-études, donc, dans un collège d'une banlieue d'Angers, pour le coup, un quartier populaire. D'Angers. Et je me souviens de sa mort, que j'apprends moi un midi, et tout le monde s'en foutait en fait. C'est ça qui m'a marqué.
Ah oui?
C'est que moi, je l'ai reçu comme quelque chose de très grave et d'important, et je me souviens très bien, on faisait la queue pour la cantine, et j'étais le seul marqué par cet événement, quoi. J'étais vraiment marqué par les événements du monde, quoi. Et petit, mes parents étaient abonnés à Ouest France, qui était le quotidien de PQR. Et je découpais, je reconstruisais des journaux. Quoi. Je découpais des articles. Je sais pas, j'adorais un tennisman qui s'appelle Stefan Edberg.
Ah oui.
Et je pouvais me réveiller la nuit pour voir ses matchs, si c'était à l'US Open ou s'il y avait trop de décalage horaire. Et je découpais, et je réécrivais en dessous.
Pourquoi vous aimiez tant Stefan Edberg? Ah, vous réécriviez les commentaires.
Ouais,
en fait
non, je réécrivais des
journalistes sportifs.
Je reconstruisais un journal. Et j'avais dû le faire sur Mitterrand aussi à sa mort.
Bon, d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire vous commencez par faire des études de droit et puis des études de journalisme.
Oui, mais je suis du droit pour faire du journalisme. Quand je quitte le sport-études, après je rentre au lycée, je me rappelle que dès la seconde, je me suis renseigné sur les écoles de journalisme et on m'avait parlé du CELSA, qui est celle de l'école de journalisme qui est rattachée à la Sorbonne, qui était à Paris, et comme tu avais toujours mon obsession de la grande ville, qui était à Paris, qui était gratuite, qui était rattachée à la Sorbonne, et pour moi, c'était l'école idéale. Donc, dès la seconde, j'avais cette envie-là, cette ambition-là, et c'est l'école que j'ai fini par faire, d'ailleurs. Et je savais qu'il fallait que je fasse un cursus universitaire avant, Sciences Po ou autre chose, mais... Et j'ai fait du droit, donc, pour pouvoir passer les concours après de journalisme.
Ces années de formation, là, de lycée, tout ça, elles sont souvent très importantes, enfin, d'adolescence, en tout cas. Vous aviez les choses qui vous ont marqué dans vos lectures, c'était plutôt toujours des choses politiques, sociaux, ou la littérature, c'était important pour vous?
Non, la littérature, c'est un peu un angle mort chez moi. Enfin, la fiction est un peu un angle mort, en fait. Et j'ai 42 ans, et je pense que ça en a encore un, d'ailleurs. Et j'en parle souvent avec mon amoureuse, qui s'appelle Lucie, qui elle est une, peut dévorer 4 livres par semaine. Et qui essaie de m'amener aussi à lire autre chose que des documents, des essais ou de l'autofiction. Parce que...
Ah, l'autofiction, ça vous intéresse?
Ouais, qu'il y a, peut-être parce qu'il y a auto dedans. Donc petit, non, par exemple, on parle de Luther King.
Ouais.
Les premiers livres ados que j'ai lus, c'était, je me rappelle très bien, d'une biographie de Luther King que j'avais adoré. Une biographie de Malcolm X, une biographie de Kennedy. Et j'essaie d'ailleurs, du coup, peut-être que je suis un peu chiant d'ailleurs avec mon fils de 12 ans, de lui dire, en gros, commets pas la même erreur que moi. Peut-être que la littérature, c'est un goût d'ailleurs qui se prend très tôt, quoi, très jeune.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez l'impression qui vous manque là-dedans? Enfin, vous passez à côté de quoi, selon vous?
Ben, alors là, je suis en analyse, du coup, mais.
Ouais. Ben, vous n'avez pas regardé cette série, là, d'ailleurs, elle est formidable.
Si,
en analyse.
Si, si. Ouais, si,
ah, ça, oui. Ça, ouais, ça,
si,
ça peut marcher.
Ah, si,
ça.
Bien sûr.
Ouais.
Ah, non, la fiction. À l'écran, je regarde beaucoup.
D'accord. C'est la fiction littéraire.
Ouais. Qu'est-ce qui me manque, je pense, qu'est-ce qui me manquait, parce qu'encore une fois, je me soigne, mais.
Non, pour vous
c'est
laisser
le rapport au réel, en fait. C'est comme si, s'il n'y avait pas de rapport au réel, c'était pas important. Et ma psy m'a dit cette semaine, m'a fait remarquer ça, le côté, s'il n'y a pas cette espèce de gravité, alors je considère que c'est pas important.
Ouais.
Et je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux et je sais à quel point la littérature construit et
peut parler du réel
et
aussi.
Bien sûr, bien sûr. Non, en revanche, le cinéma plus que la littérature pour le coup. Petit, vraiment, mon film. Alors pour le coup, lui, il est pas du tout politique, quoique. On pourrait le faire aussi.
Ouais,
en fait, il l'est finalement, mais à l'époque, je ne le savais pas. Top Gun, avec Tom Cruise, qui est sorti en 85, je crois, donc je ne l'ai pas vu à sa sortie, mais j'avais la VHS chez moi et pour le coup, je connais les dialogues par cœur.
Et pourquoi vous adorez Top Gun ?
Je sais pas.
Vous êtes allé voir Top Gun
2 ouais, bien sûr.
Qui était assez réussi.
Ouais, j'ai adoré du coup. Ouais. Bah parce que il est construit exactement comme le premier, donc c'était vraiment ma Madeleine parfaite quoi. Ouais, j'ai le sentiment que ce film a été fait pour moi, Top Gun 2. Ouais,
qu'est-ce qui vous parle dans Top Gun en fait ?
Aujourd'hui beaucoup moins. Aujourd'hui je vois le côté discours américain des années 80 en pleine guerre froide. Enfin pour le coup.
La dimension politique du film.
À l'époque, il faut aller abattre les avions russes, enfin soviétiques. Mais je sais pas, c'est ce héros. J'avais envie d'être ce mec, quoi.
Ah oui. Ouais. Ouais. Qui a une grosse moto.
Ouais.
C'est fou. Sort avec la prof de volley.
La construction de la masculinité. Mais ouais.
Oui, quoi. En même temps, il est plus ambigu que ça, ce film sur la masculinité, parce que quand on le revoit aujourd'hui, les scènes quand même où Tom Cruise il est filmé en slip de dos face à son lavabo. Oui, il y a une dimension homoérotique assez évidente.
Mais que
à l'époque
que j'ai lu dans les articles quand Top Gun 2 est sorti. Je suis pas sûr qu'à l'époque on le voyait. Dirty Dancing aussi, parce que ma sœur adorait. Alors, c'était très genré, c'est bizarre.
Même époque, ouais.
Et pareil, je le connaissais par cœur. Et puis après, à l'adolescence, j'ai l'impression vraiment d'être une caricature, mais aussi, les films de Ken Loach, c'est ça qui me marque beaucoup, en fait.
Et aujourd'hui, vous gardez un goût pour du cinéma comme ça ?
Du cinéma social ?
Social, empreint d'une certaine gravité ou...
Bien sûr, enfin oui, évidemment, mais pas que, pour le coup. Ouais. Et puis, je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, mon cerveau est attiré par des séries qui prennent beaucoup trop de temps. Et j'ai 3 enfants et je vais moins au cinéma, etc. etc.
Ouais.
Mais si, je reste attiré par le cinéma social. Et en même temps, le cinéma social, le documentaire, je traite tellement... dans mes émissions du réel, que j'ai parfois maintenant besoin davantage de m'échapper.
M. Le goût de M.
Alors donc vous êtes devenu journaliste, hein, comme vous en rêviez, et puis journaliste politique, vous rentrez chez Europe 1, et puis...
un peu par hasard, il y avait ce qu'on appelle des bourses à l'époque, et moi j'ai été l'un des lauréats de la bourse LOGA à l'époque, donc la bourse Europe 1. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Europe 1, où je faisais déjà les flashs de nuit en tant qu'étudiant. Il y avait un partenariat entre l'école et la radio. C'était le Europe 1 d'avant, qu'on n'écoutait pas chez moi, mais pas par idéologie, parce qu'il y avait de la pub, juste. Donc mes parents se faisaient violence, je pense, quand je suis rentré à Europe 1 pour m'écouter, quand même. Ils se sont mis à écouter Europe 1. je suis rentré à Europe 1, quand on rentre à Europe 1, on rentre pas au service politique. J'étais au service information générale. Et puis, je devais être meilleur présentateur que reporter. Et donc, je faisais beaucoup de remplacements en présentation. Mais j'étais au service IG, comme on dit, donc information générale. 6 mois après, il y a besoin d'un recrutement au service politique. Mais ce qui est intéressant, c'est comment je suis arrivé là. C'est qu'il y a eu une place dans ce service. Europe 1 cherchait un chef de service, justement, politique. Et Jean-Pierre Alcabache, qui était le patron de la radio, très proche de Nicolas Sarkozy, demande à Nicolas Sarkozy son avis le recrutement.
Lors d'un voyage, en fait.
Lors d'un voyage en avion. Sarkozy lui donne 3 noms. Bon, pas le mien, évidemment.
Ouais, mais,
sauf que cette anecdote a fuité et le Canard Enchaîné a fait un gros article là-dessus qui s'appelait Nicolas Sarkozy, conseiller en recrutement pour Alcabache. Énorme scandale. Du coup, Alcabache remet à plus tard la nomination du chef de service. Mais il faut trouver quelqu'un en urgence, quoi. Et donc, comme je parlais beaucoup politique à la machine à café, ils se sont dit pourquoi pas lui. Et donc c'est tombé sur moi. Mais donc sans cette anecdote, sans le Canard Enchaîné, sans Nicolas Sarkozy, sans Jean-Pierre Alcabache, peut-être que je ne serais pas là. D'ailleurs, suite à cette anecdote, donc 3 semaines plus tard, je pars aux Antilles, Martinique, Guadeloupe avec Sarkozy, avec tout le Sarkotour qu'on appelait à l'époque. Sarkozy se préparait pour sa campagne de 2007. Je rencontre Nicolas Sarkozy à l'hôtel à Fort-de-France, je crois. Et je vais me présenter, je dis bonjour, je m'appelle Karim Rissouli, c'est moi qui vais vous suivre pour Europe 1 désormais. Et lui me dit, je sais très bien, c'est moi qui vous ai nommé. Et je lui réponds, et j'étais assez fier de moi, oui, c'est pour ça que je viens vous voir, je voulais vous remercier. Et donc c'est notre première rencontre. Je l'ai suivi pendant quelques mois. Ça n'a pas été simple, parce que c'est quelqu'un qui est dans un rapport de force permanent, qui a quand même une vision raciale du monde. Je dis pas raciste, mais en tout cas raciale. Donc je pense qu'il voyait d'abord chez moi un jeune arabe, et avant de voir un journaliste. Il y a eu plusieurs anecdotes qui étaient assez... où il me renvoyait à mon identité, justement.
C'est vrai.
Pour revenir à notre discussion du début.
Ouais. Ça vous est souvent arrivé dans votre carrière ou...
Non. À part avec lui.
Oui, parce que dans les écoles de journalisme, ça change, je l'espère.
Oui.
Mais même il y a une vingtaine d'années, moi je peux parler de ce que je connais, il y avait quand même assez peu de personnes racisées dans les écoles de journalisme.
Dans ma promo, on était 2, je crois.
Oui.
Il y avait Nabil Wakim, qui est journaliste au Monde maintenant. Mais Sarkozy, c'était aussi une façon de prendre l'ascendant. Mais c'était pas agréable pour moi parce que j'étais encore assez tendre, à mon avis.
Oui.
Et donc, ça a été des épisodes un peu marquants, oui. où il me renvoyait, tu poses une question et on te renvoie à ton prénom ou à tes origines. Bon. Et ensuite, la campagne approchant, Sarkozy était le favori. Donc, moi, j'étais le jeune journaliste politique. Donc, ils ont mis quelqu'un de plus expérimenté sur la campagne de Sarko et moi sur Ségolène Royal. Donc, j'ai suivi la campagne de Ségolène Royal en 2007. Et puis après la vie du PS jusqu'en 2009, et où là j'ai quitté Europe 1 pour Canal+.
Oui, c'est ça. Donc vous êtes resté 4 ans et vous dites tout tourner autour de la stratégie, quoi.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas sale. C'est juste que
c'est pas ça qui vous intéresse.
C'est pas ça qui m'intéresse.
Pas cet endroit-là dans la politique.
C'est-à-dire que je pense que les services politiques devraient être rebaptisés services de stratégie politique. Parce que c'est ça qu'on.
C'est de l'analyse de stratégie.
Regarde. Ouais.
Ouais.
Et c'est sûrement utile parce qu'il faut la conquête du pouvoir. Et indispensable pour pratiquer le pouvoir. Donc,
qu'est-ce que vous en avez retenu quand même d'avoir côtoyé des politiques de près comme ça ? C'est que justement vous vous êtes dit que c'était pas cette position-là que vous vouliez, c'était pas cette distance-là que vous
exactement.
Vouliez.
Exactement. Je pense d'abord Je pense que quand on est obligé de les côtoyer d'aussi près, quand on fait justement de la stratégie politique et qu'on doit observer la vie des partis. Les rivalités, etc. Et pour avoir de l'info, il faut les voir beaucoup. Et j'avais pas envie de devenir ce que je voulais pas devenir. En gros, je voulais pas de cette proximité-là avec les politiques. Et je pense que j'y aurais pas échappé. J'avais envie de parler de politique au sens très large, au sens sociétal, déjà. Mm-hmm. Et donc, je suis parti. Parce que Canal+ m'a fait une proposition, mais j'avais envie de parler de politique différemment.
Ouais, c'était Dimanche+, justement, déjà, qui essayait une émission qui essayait de casser un peu les codes de journalisme politique, de comment on en parlait. Et vous, si on regarde, vous avez, donc là-bas, je crois que vous avez beaucoup de liberté, vous avez beaucoup appris de choses. Et tout votre parcours, enfin, si on regarde depuis Canal+ à aujourd'hui, enfin, vous faites énormément d'émissions sur le service public, votre chemin, il est quand même justement d'essayer de se demander comment on peut parler de politique et faire du journalisme politique, mais autrement quand même.
Oui, et comment intéresser le plus grand nombre à la politique. Le questionnement, c'est celui-ci, et d'ailleurs, ça passe par des détails, on parle du goût, mais quand j'étais au Grand Journal après, parce que quand j'étais à Dimanche+, j'étais grand reporter.
Ouais.
Donc,
Vous êtes chroniqueur au Grand Journal.
Je suis chroniqueur au Grand Journal.
Époque Antoine Decaune.
Ouais, quand Antoine Decaune remplace Michel Denisot, donc ça, c'est en 2013.
Ouais.
J'étais chroniqueur politique et il y a eu toute une réflexion sur comment je m'habillais, d'ailleurs, pour parler de politique.
Ouais.
Et donc, la styliste du Grand Journal m'avait trouvé une série de chemises à carreaux. Et donc, je n'avais quasiment que des chemises à carreaux.
Oui, c'est vrai, j'ai regardé.
Qui était une forme, du coup, d'uniforme, qui est devenue une forme d'uniforme. Mais... qui avait de l'importance à mon avis. C'est-à-dire que
c'était pas le costume cravate.
Ouais, c'était tout sauf le costume cravate pour moi. Pour moi, c'était l'anti costume cravate. J'ai du mal avec la cravate d'ailleurs globalement, mais et avec l'uniforme d'ailleurs. Mais c'est marrant.
Toujours. Ça continue.
Oui, ouais. sachant qu'une chemise à carreaux peut devenir un uniforme, mais avec l'uniforme classique imposé d'en haut par la société et avec les codes qu'on nous impose. J'ai un peu de mal avec ça. Et encore aujourd'hui.
Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur chemise.
Ouais.
Enfin,
sur chemise, t-shirt.
Ouais. Ils sont jolis, hein, d'ailleurs. Mais vous pensez que ça a vraiment une importance? C'est-à-dire, enfin, moi, je pense, le vêtement.
Je pense que ça a une importance, ouais.
Ouais.
Je pense que, les journalistes qui ressemblent dans leur code vestimentaire à des hommes politiques, en tout cas, ça me pose question. Qui singe qui? Qui veut ressembler à qui? Est-ce que ça renvoie pas aussi l'image de gens qui évoluent tous dans les mêmes sphères? Et je pense aussi quand même qu'il y a un processus d'identification quand on regarde la télévision. La télévision, c'est quand même de l'image, donc je pense que ça a de l'importance. Ouais. Plus je vieillis et plus j'avance, plus je suis persuadé que la question de la sincérité est primordial. Et encore plus quand on parle de politique, d'actualité, de société. Et plus j'avance, plus j'ai de liberté aussi, parce que je peux davantage dire « je », parfois, émettre mes doutes à l'antenne. Mais je pense que c'est important.
Alors justement, vous quittez Canal+, en 2015, c'est... à cause de Bolloré, en fait.
Ah oui, clairement.
Voilà.
Ou grâce, je sais pas.
Voilà, parce que vous êtes très attaché à la liberté éditoriale. Vous dites que ça va plus être possible de l'exercer.
Je sais que c'est plus possible déjà. Parce que, en fait, en 2015, c'est l'année où Vincent Bolloré devient majoritaire au sein de Vivendi. Et donc devient le patron de Canal, en réalité. Mais de la boîte de production dans laquelle je travaillais, qui s'appelle KM, qui produisait Le Grand Journal, donc Renaud Levent-Kim, avait produit un documentaire sur le Crédit Mutuel, qui était un documentaire qui révélait des choses sur le patron du Crédit Mutuel, etc. Ça a été un cas qui a remonté jusqu'à la direction de Canal, et il y a eu une demande de censure de ce documentaire, qui a fini par être diffusé sur le service public d'ailleurs. Donc j'avais déjà vu ce que ça signifiait être journaliste sous Vincent Bolloré. Mais bon, j'étais au Grand Journal, et fin juin 2015, mon producteur et ami, pour le coup Renaud Levent-Kim, décide de ne pas produire Le Grand Journal sans les guignols de l'info. Parce qu'ils veulent sortir les guignols de Canal+. Et donc, Renaud Levent-Kim se fait sortir de la production du Grand Journal, en gros. Et donc, moi, il me proposait à Canal+, à l'époque, de rester sur la chaîne. J'ai réfléchi pendant l'été, et j'ai appelé les dirigeants de Canal à la fin de l'été en disant que je voulais pas porter ce maillot-là. Et donc j'ai quitté pour Pôle emploi. C'est une bonne expérience, d'ailleurs, de passer de chroniqueur au Grand Journal à Pôle emploi. Mais j'ai évidemment... J'en suis persuadé, eu raison de le faire. C'est là que j'ai commencé à proposer des projets à France Télévisions.
Oui, voilà. Et donc, depuis 2016, vous êtes sur le service public. Il y a eu C'est Politique, qui est une émission très importante que vous avez animée pendant de longues années. Vous avez passé le relais. Il y a eu C'est Ce Soir, 2021, je crois.
Ouais, janvier 2021.
Voilà. Bon, il y a d'autres émissions. Ensuite, En Société, En Terre Opposée, aussi, que j'ai regardé. Si vous essayez de définir le goût Rissoli, en termes de ce qui vous intéresse, la télévision que vous produisez, enfin ce qui est important pour vous, c'est quoi en fait? Ça se définirait comment?
Je crois que c'est l'idée, je l'ai un peu dit déjà, mais de parler de la société avec ceux qui la font, le mélange des registres de parole,
des natures
d'invités, avoir des intellectuels, des artistes, des gens de la société civile, des témoins. Est-ce que je sais pas si c'est le goût Rissoli, mais en tout cas, c'est ce que je dis souvent à mes invités avant le début des émissions, c'est que mon objectif, quelle que soit l'émission que je fais, c'est qu'on soit plus intelligent à la fin de l'émission qu'au début, quoi. Ouais. Qu'on ait brassé des choses, des idées, qu'on ait avancé, qu'on ait pu se remettre en question. Et si peut-être fondamentalement, s'il y a une patte ou un goût, en tout cas une ambition chez moi, c'est celle d'essayer de recoudre plutôt que de diviser. Des ponts plutôt que des murs, en gros, quoi.
Ouais, dans vos émissions, il y a des multiplications des regards, des registres de parole, il y a des constructions, beaucoup, des discours, et puis vous essayez, je crois, de créer ce qui n'est pas facile, de la nuance, en fait, dans les... Je pense, par exemple, il y a un moment là que j'ai trouvé très intéressant dans une émission récente que vous avez reçue, Judith Godrèche. Il y a eu cette séquence, quand même, où elle est revenue sur une interview que Laura Adler, qui était en plateau avec vous. Laura Adler l'avait interviewée à l'époque de la sortie de son roman.
30 ans plus tôt.
Et n'avait pas vraiment entendu, et l'avait un peu dans sa séquence, finalement, écrasée derrière un créateur.
En fait, Judith Godrèche, elle, dans tout ce qu'elle développe depuis qu'elle a pris la parole, il y a les actes de Jaco, de Doyon, etc. Mais il y a aussi le regard de la société à l'époque et la tolérance de la société pour ce qui se passait. Et pour elle, Laura Adler incarnait quelque part cette société qui avait toléré les agissements de ces hommes. Et elle reprochait à Laura Adler de l'avoir, qui venait pour un roman. Et elle l'avait discuté du roman. Et puis, à la fin de la discussion, elle avait dit « Mais regardons un extrait du film de Jaco. »
Tout à fait.
Et du coup, Godrèche dit « Je m'étais senti remise dans ma boîte, quoi.
Oui. »
Comme si on me remettait à ma place.
Oui.
Je pense que Laure n'avait pas du tout conscience d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, Laure me disait « Mais à l'époque, j'étais l'une des seules à l'interviewer, d'ailleurs. » D'ailleurs, il n'y a pas d'autres archives qui sont sorties sur le livre.
Oui, tout à fait.
Donc, elle se disait « Mais je lui ai donné la parole, justement. » Parce que j'adorais la liberté de cette femme, etc. Mais on voit bien que là, il y a deux générations qui s'opposaient. Et effectivement, dans l'émission, ce qui a été très fort, ça n'a pas été simple, hein, parce que d'abord, il a fallu que les deux acceptent d'être l'une à côté de l'autre. On savait très bien que ce sujet pouvait surgir. D'ailleurs, au moment où Judith Godrèche a commencé à en parler alors, j'allais poser la question de cette société et de comment elle avait changé ou pas. Et comment le milieu médiatico-culturel avait été tolérant ou complaisant, disons.
Mais ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant que la question puisse être posée, puisse être abordée, et qu'il y ait pu y avoir cette discussion, en fait.
Mais ça a été le cas entre Laure et Judith Godrèche. C'est le cas, j'espère, le plus souvent possible sur le conflit israélo-palestinien, qui sont des émissions excessivement importantes pour moi. Le truc, c'est que, et c'est pour ça que c'est fatigant, c'est que j'ai l'impression parfois de jouer ma vie à chaque émission. Mais en tout cas, il y a des thématiques sur lesquelles je considère qu'on a une responsabilité particulière. Et je peux me prendre la tête pendant des heures sur un lancement, sur une présentation d'invité, parce que c'est trop important pour moi. On manipule de la TNT, quoi. Donc, toutes ces émissions sur le conflit israélo-palestinien, sur la société française, l'importation du conflit, j'y mets énormément de cœur et de sincérité, justement.
Justement, je crois que c'était dans Société, là, dans le dernier qui a été diffusé, là, à l'heure où on se parle. Donc, c'était il y a 3 jours, le 24 mars, 4 jours.
Avec Delphine Horviller.
Oui, Delphine Horviller, elle a proposé peut-être un super concept d'émission, d'ailleurs, de jeu de rôle où chacun adopterait la position de l'autre pour prendre le narratif de l'autre et de voir à quel point il pouvait résonner en soi. Enfin, à quel point, finalement, c'est la définition de l'empathie, hein. Ça, c'est quelque chose qui vous parle?
Ah, complètement. L'empathie est de comment penser contre soi-même. Et comment continuer à penser contre soi-même quand on est de plus en plus assigné identitairement, quand on peut être vu, et là je suis d'accord avec elle, comme un traître par les siens, si on ne dit pas exactement ce que les autres veulent entendre, et quand justement on essaie d'avoir de la nuance.
Ouais. Donc, et de ne pas être défini que justement par son identité, entre guillemets.
C'est-à-dire que moi je suis journaliste, je suis français, je suis d'origine franco-marocaine, je suis un homme, je suis beaucoup de choses. Je suis
un père de famille.
Je suis un père de famille. Après, sur cette question de la Palestine, moi, ça a été quelque chose, et c'est encore quelque chose de très important pour moi. Moi, j'ai été engagé associativement en Palestine. En fait, j'avais un ami que j'ai toujours, palestinien, qui est musicien palestinien, qui vient d'un camp de réfugiés à côté de Ramallah, et qui a lui été entre guillemets sauvé par la musique. C'est-à-dire que lui, un jour, un prof jordanien est passé dans le camp, lui a fait essayer un violon ou un alto, et c'est comme s'il avait joué toute sa vie, et du coup il a commencé à faire de la musique classique, et il est venu au conservatoire d'Angers, etc. Et c'est un grand musicien palestinien aujourd'hui. Et donc c'est un ami à moi. Et donc on a, sous son impulsion à lui en tout cas, mais en tout cas je l'ai aidé, à monter des écoles de musique dans les camps de réfugiés palestiniens. Donc je connais très bien cette région. J'y suis allé une bonne dizaine de fois, j'y ai passé beaucoup de temps. Même moi, je pense que certaines émissions que je fais, certains de mes amis... considère que je suis trop conciliant avec les Israéliens et voilà, donc c'est pas simple pour moi de gérer ça, mais j'essaye absolument d'entendre toutes les paroles, de penser contre moi-même, d'avancer. J'évolue moi aussi depuis le 7 octobre comme j'évoluais avant, mais j'y mets encore plus de cœur et de sincérité, quoi.
Jean, vous parliez de penser contre soi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi dans les œuvres qui vous touchent? Ça peut être des fictions, ça peut être peu importe, hein, dans ce que vous lisez. Est-ce que ça vous intéresse? C'est quelque chose que vous cherchez, ça?
Sûrement pas assez. Peut-être que je reste aussi, moi aussi, quelque part dans ma bulle. Mon amoureuse, pour le coup, essaie aussi de me pousser à ça. Pas mal.
Aller voir des choses que vous connaissez
pas.
Ouais,
à entendre des arguments que je connais pas, aller voir des choses que je connais pas. Mais ça me pousse aussi à m'intéresser à des points de vue, à des regards que j'aurais pas forcément été entendre ou écouter. Mais c'est un sport, en fait. Je pense que c'est un sport et c'est un muscle de penser contre soi-même qu'il faut entretenir, quoi.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Là, on passe du salon à la salle à manger.
Okay.
Toujours le parquet en pointe de Hongrie qui grince. Une très grande table pour faire des très grands dîners.
Vous aimez bien
à recevoir? Alors, j'adore recevoir. Bon, là, depuis un an avec le bébé, ça a été un peu contraint, mais j'adore recevoir. C'est la chose préférée dans la vie.
C'est vrai?
Ouais. Préparer l'apéro pour recevoir, mettre un petit fond de musique et que les gens arrivent. Ça,
c'est une joie.
Ça, c'est une joie.
Ouais, ouais.
Et là, on est devant ce qu'on peut appeler la bibliothèque féministe.
Étagère string
en bois un peu miel, et étagère blanche string.
Et alors, c'est quoi cette bibliothèque féministe?
La vérité, c'est quand même que c'est ma compagne Lucie qui l'a composée, cette bibliothèque. Il y a quasiment que des bouquins féministes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le deuxième sexe, tome 1 et 2, Simone de Beauvoir, tous les livres de Mona Chollet.
Et lequel vous a intéressé, vous, là-dedans? Vous les lisez, du coup?
Alors, pas assez, mais je pioche quand même de temps en temps. On peut prendre quelqu'un de récent, pour le coup, que j'ai reçu et que j'ai lu. Les livres de Titu Lecoq, qui sont super, super importants, je trouve. Et je l'avais reçu pour
sur
ce
l'argent,
livre.
Sur l'argent, justement, au sein du coup.
L'argent au sein du coup, là, c'est les grandes oubliées. Et c'est pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Je l'avais reçu dans C'est ce soir pour ce livre. Ça fait partie de mon éducation récente, ça. Je pense l'éducation au féminisme. Et donc, je pense que c'est quand même un lieu très important pour moi et aussi pour mes enfants. Par exemple, Titu Lecoq, elle a écrit pour les enfants aussi, et mon fils l'a lu. Donc, je pense que dans le rapport au monde et à la société, c'est un endroit très important de l'appartement.
Alors, Karim Rissouli, on est chez vous. Quel rapport vous entretenez avec les objets qui vous entourent ? Ils sont importants pour vous ou pas ?
Ouais, ils sont importants pour moi. J'ai vécu ces dernières années une transition de vie aussi. Donc, j'ai eu un premier foyer,
première famille.
Première famille, disons, avec mon ex-compagne avec qui j'ai eu deux enfants. Puis, on s'est séparés. Et donc, c'est intéressant d'ailleurs quand on. Je pensais à ça avant votre arrivée. Qu'est-ce qui reste de ma première vie, entre guillemets ?
Ici,
parce qu'il y a encore des choses là-bas. Si on allait là-bas, on pourrait faire aussi le goût de M là-bas.
Ouais.
Donc oui, les objets sont importants, mais j'ai aussi appris à m'en défaire par la force des choses, j'allais dire.
Ouais.
Donc ici, il y a beaucoup de choses qui sont marquées aussi par mon amoureuse actuelle.
Ouais.
Mais oui, c'est important. En tout cas, ce qui est important pour moi, disons, c'est l'ambiance, la lumière, la chaleur.
Ah, vous avez envie que ça soit chaleureux.
Ah ouais, j'espère.
Ouais, c'est important. Que les gens se sentent bien.
Ouais, mais ce qui est un défi, hein, parce que il n'y a pas d'image, mais on est dans un appartement excessivement bourgeois. Il y a des moulures partout. On les voit même plus tellement il y en a, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moulures au mur, au plafond.
Il y a beaucoup de moulures.
et tout le défi a été de rendre ce lieu chaleureux par les objets, la lumière, etc., la décoration.
Mais... Ouais. Donc moins bourgeois. Vous avez un petit conflit
J'ai un énorme conflit.
Et en même temps, vous choisissez un appartement bourgeois dans un quartier assez bourgeois.
Ouais. Non, mais oui, j'ai un
conflit. Vous avez l'impression que ça raconte une double aspiration, c'est-à-dire à la fois une envie d'élévation qui a dû être la vôtre, et en même temps, vous avez quand même envie que ça reste chaleureux, donc de ne pas vous couper.
Exactement. Je pense que ça raconte, cet appartement raconte aussi une sorte de conflit intérieur aussi.
Ouais, c'est ça.
Mais un peu des transclasses. Hein. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à assumer cet appartement. Je crois que je l'assume maintenant, mais j'ai mis beaucoup de temps. Et je me rappelle Nicolas Mathieu, le romancier, qui est venu dîner ici un soir. Et j'avais presque honte de lui montrer l'appartement. Parce que lui, c'est l'incarnation du transclasse d'aujourd'hui, en tout cas, qui réfléchit là-dessus, etc. Et j'assumais pas de recevoir dans cet appartement-là. Et je me rappelle de ma mère, la première fois qu'elle est venue là. Elle s'est assise sur le canapé là-bas, et elle a pas bougé, je crois, pendant quelques minutes. Elle arrivait pas à me dire que c'était super. C'était bien, un grand...
Vous avez compris ça comment ?
Elle était un peu mutique. J'ai dit, mais maman, tu dis rien. Enfin, et elle dit, non, si, c'est bien. Elle se reconnaissait pas dans cet endroit. Mais c'est marrant, comment les lieux peuvent raconter aussi les conflits intérieurs, l'évolution,
Tous les objets peuvent raconter toute la relation qu'on a avec les objets. Ouais. Vous me parliez des vêtements rapidement tout à l'heure, on en parlait dans votre cadre professionnel. Vous avez quelle relation avec les vêtements ? C'est important pour vous ou pas dans la vie ?
Ouais, c'est important. Et en même temps, je fais très peu de shopping. Mais après... J'ai la chance d'être... je suis, entre guillemets, habillé...
Il y a une styliste.
Au travail, il y a une styliste, donc je peux prendre des vêtements, les ramener.
C'est ça.
Donc,
quoi ?
C'est important, et en même temps, je suis tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je suis en jean, j'ai un t-shirt blanc, une surchemise, à manches courtes, une chemisette.
C'est quel imaginaire qui vous parle, à vous ?
Hip-hop gentrifié. Hip-hop de 42 ans. Assez décontracté, je suis toujours en basket par exemple, dans la vie comme à l'antenne, je suis toujours en jean dans la vie comme à l'antenne.
Vous êtes beaucoup dans la vie comme à l'antenne ?
Bah j'essaie.
Ouais. Quel type de goût vous plaise à vous ? Dites-moi de manière sensible, dites-moi des mots.
Huile d'olive, j'aime manger, j'aime boire, j'adore manger, j'adore le vin, j'aime le vin minéral. Alors, grâce à des amis, ça fait une dizaine d'années que j'ai appris à boire du vin
nature
beaucoup. Mais bon, quelle surprise. Je sais pas, souvent je me demande quels aliments j'emmènerais, je dirais.
Ouais.
Et ça va faire très métis, transclasse, de l'huile d'olive et de la truffe.
Ah ouais? C'est pas mal. Ça raconte, hein.
Ouais, ça raconte. Hein.
Ouais.
On se fout beaucoup de ma gueule sur la truffe, quand même. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent et à... peut-être un peu à changer même de milieu. J'avais l'impression que, enfin, je mettais de la truffe partout, quoi. J'achetais des chips à la truffe, des cacahuètes à la truffe.
Vous avez l'impression que vos goûts ils changeaient. Enfin, il y avait dans ce, quand vous avez changé de milieu comme ça, quand
ouais,
vous...
un peu. Non, mais du coup, de manière un peu boulimique, c'est-à-dire ouais. Mal, en fait. C'est marrant, mon fils a dû manger de la truffe pour la première fois quand il avait 5 ans. Tu vois, ouais. Pour lui, c'est. c'est tellement bourgeois de dire ça.
C'est pas exceptionnel.
Non. Ouais. Moi, j'avais 30 ans la première fois, je pense. Ouais, mes goûts ont changé à l'âge adulte, en fait.
Ah oui. Parce que vous disiez, les fondamentaux, ils sont restés.
Bah, oui, l'amour, oui, la politique. Ils ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai découvertes à l'âge adulte. Ouais. Parce que, comme quand tu changes de milieu, tu changes aussi de goût, quelque part. Mais en gardant les fondamentaux.
Enfin, on en adopte de nouveaux.
On en adopte de nouveaux qui viennent s'ajouter aux autres.
Ouais. Qui peuvent être agréables. Hein.
Ouais. Mais on fait des.
Vous avez découvert quoi alors?
Bah, pour le coup, j'ai découvert la poutargue. Mais le mot poutargue, je pense que je l'ai découvert à l'âge de 30 ans. Hein.
Est-ce qu'il y a des choses que vous détestez, vous? Est-ce que vous réfléchissez comme ça ou pas trop?
Pas trop. Je suis vraiment un garçon facile, quoi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup de choses, en fait. En musique, par exemple. Alors, moi, la musique est fondamentale pour moi. J'en écoute tout le temps.
D'accord. Il y a toujours de la musique chez vous.
J'en écoute beaucoup.
Et vous écoutez quoi?
Tout. J'adore le rap. Ouais. J'adore la musique arabe. Mais il y a différents types de musique arabe. Mais disons, j'adore la musique arabe. J'adore la chanson française.
Ouais. Mais rap, vous aimez quoi, par exemple? Parce que c'est vaste aussi, ça.
J'adore Booba, par exemple.
Ouais.
J'adore Damso. J'adore. J'écoute vraiment de tout, tout le temps.
La radio
Ouais, la radio, mais j'adore la Star Academy, moi. Je suis un fan de Star Academy, par exemple. J'adore The Voice. Et je vois toutes les ficelles, j'entends les critiques, etc. Mais j'adore.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
J'ai des amis qui ont des goûts, qui ont très bon goût. Enfin, tu vas chez eux et tu dis, mais tout est parfait, en fait. Et tout est bon, tout est bien choisi. Mais je pense que j'ai pas ce talent-là. Parce que je pense que c'est une forme de talent aussi.
Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût?
Dont je n'aimais pas le goût? Non, je crois pas.
Il faut qu'il y ait un partage de ces choses, c'est important.
Un partage de goût, mais je dirais d'abord un partage de valeurs pour moi. De valeurs, un rapport au monde, on revient à ça.
Ouais.
Je pense que c'est plus important pour moi que le goût. C'est-à-dire, le goût du monde.
Mais ça serait quoi pour vous, Karim Rissouli, avoir du goût?
Pour moi, avoir du goût, c'est s'intéresser aux autres.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci à vous, bonne journée.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et de Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.